Bonjour, bonsoir à tous, je suis Brice Bossavi et bienvenue dans Une 2, le podcast rap et foot de l'équipe. Dans ce nouvel épisode, on avait envie de faire se rencontrer deux personnalités au parcours assez différent, mais qui partagent en fait un vrai point commun, la réinvention. Que ce soit à Sevran ou au Mans, ces deux enfants du foot et du rap, attachés à leurs racines africaines, ont réussi à s'imposer dans leur domaine et à durer dans le temps, notamment en prenant des nouvelles directions, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie qu'ils en discutent. Aujourd'hui, nous sommes avec Kalash Criminel, rappeur et supporter de Liverpool, aussi connu en tant que Zaïrois Sauvage 243 comme Yannick Bolasie, et qui vient de sortir son nouvel album Bon Courage. Salut Kalash Criminel.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, impeccable.
Et avec lui aujourd'hui, un joueur qui a été pour moi une pépite sur mon petit gazon, ce qu'il avait à l'époque de Saint-Étienne Save. Aujourd'hui, il brille aux États-Unis en MLS avec le Los Angeles FC et il vient même d'être meilleur buteur du championnat. Denis Bouanga est avec nous en direct à distance depuis Los Angeles. Salut Denis.
Salut tout le monde.
Ça va ?
Ça va, merci à vous.
Et comme d'habitude, je suis avec Pierre-Etienne Minonzio de l'équipe. Salut Pierre-Etienne.
Salut à tous.
Et nous sommes dans les bureaux de l'équipe.
He's not going to score a ton of goals, but he's going to allow you as a player around him to get opportunities.
Deflection to Bouanga! Danny Bouanga! How do you stop him? No one's been able to!
On vient donc d'écouter un feat Kalash Criminel Denis Bouanga avec un extrait de ton nouvel album Kalash Crimi et Denis un but la saison dernière où t'as fini quand même meilleur buteur en MLS. Alors, première question toute simple, comment est-ce que vous vous connaissez? Je crois que ça fait un moment que vous vous êtes rencontrés.
Ouais, ça fait un moment, ouais. D'ailleurs, ça va ou quoi frérot, tu vas bien?
Ça va, tranquillement et toi?
Ça va, impeccable. Ben, on avait plein d'amis en commun et on s'est rencontrés par rapport à mon association. Parce que je devais aller au Gabon, au final, j'ai pas pu, pour faire un don de crème solaire aux albinos au Gabon. Et par la suite, ben, y a un ami à moi qui m'a dit, ben, y a Denis Bouanga qui part en sélection et c'est un sujet qui le tient à cœur aussi. Donc il peut le faire et ça m'a touché. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Instagram et par la suite... On est restés amis.
Oui, c'était en 2019. Donc, Denis, t'étais allé distribuer des crèmes solaires pour des personnes albinos au Gabon, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En plein regroupement, c'était difficile de sortir. Mais voilà, moi, j'avais cette cause-là et rendre aussi cet hommage à Kalash Krimi. Parce que voilà, ça, moi, j'écoutais souvent ses sons. Et puis, j'ai vu que voilà, qu'il ne pouvait pas venir au Gabon. Donc, du coup, j'ai fait cette part-là.
Et tu peux nous préciser un peu ce que c'est que... Enfin, on l'imagine, mais tu peux décrire ce que c'est qu'être albinos dans un pays africain. T'es plus exposé au soleil, c'est plus
exactement.
Compliqué.
Exactement. En fait, on va dire, on a une peau assez fragile.
Parce que toi-même, tu es albinos, faut le dire.
C'est ça, ouais. C'est ça, je suis albinos. On a une peau assez fragile et on peut pas rester énormément au soleil. Du coup, en Afrique, il fait tout le temps chaud, il y a tout le temps du soleil. Et forcément, eux, ils sont exposés au soleil. Et ça crée des cancers de la peau. Et il y a beaucoup d'albinos, beaucoup d'enfants albinos en Afrique qui meurent du cancer de la peau parce qu'ils n'ont pas de protection comme les crèmes solaires, des casquettes ou des lunettes. Et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'essaie de les aider le plus que je peux tout le temps, dès que j'ai le moyen ou dès que j'ai l'opportunité d'y aller, de les aider, de faire des dons, je le fais.
Et actuellement, Denis, tu es quand même à 9000 km de nous. Est-ce que tu peux nous dire où t'es, nous décrire un peu ce nous, c'est le soir. Toi, je crois que c'est le matin, là.
Ouais, moi, c'est le matin, 9h35 du matin. Et voilà, juste avant de déposer mon fils, je vais au foot. Et voilà, maintenant, c'est 9h de décalage. Voilà, c'est difficile de parler avec mes proches, justement, qui sont en Europe. Mais bon, voilà, maintenant, on s'y fait. Hein.
Et tu peux nous décrire, là, t'es où? T'es au centre d'entraînement du Los Angeles FC. Tu sais quoi? C'est, je sais pas, c'est en face de la mer. Nous, on dit Los Angeles, on imagine. Ça, c'est le rêve américain.
Non,
t'es où
vraiment...
exactement? Tu peux nous décrire?
C'est. Non, je suis loin de la mer, là. Là, je suis à 45 minutes de la mer. Je suis à peu près à côté de downtown, en pleine ville, où c'est un centre vraiment. Il est tout neuf, il est vraiment agréable. Il fait bon vivre dedans. Et voilà, là, je suis dans une salle vidéo. Tranquille, personne me casse la tête.
Et Kalash Krimi, ouais, tu sais s'il y a beaucoup de footballeurs qui écoutent ta musique dans les vestiaires?
Ouais, il y en a énormément. Ça fait plaisir. On a même vu des bisoutages en équipe de France avec mes titres et tout. Et ben, ça fait plaisir. En plus, moi, j'aime beaucoup le foot, donc ça fait doublement plaisir, c'est sûr.
Et Denis, t'as déjà entendu du Kalash Krimi dans les vestiaires?
Bien sûr. De toute façon, quand j'étais à Saint-Etienne, moi, je mettais la musique. Donc, du coup... Et ils sont obligés d'écouter avec moi, quoi qu'il arrive. Mais celle à qui je mettais souvent à Saint-Etienne, c'était Sale Sonorité. Voilà. Voilà, je pense qu'elle donne de la pêche et puis elle a vraiment un rapport avec le foot et le rap. Donc du coup, c'est ce qui nous correspondait le mieux. En tout cas, ce qui me correspond le mieux, moi, c'est ce genre de kickage.
Et, est-ce que tu essaies de faire écouter du rap français à tes coéquipiers à Los Angeles?
Bah, là, j'essaye de m'emparer de l'enceinte. C'est vrai que moi, l'enceinte, là, je la mets en plein milieu du vestiaire et là, j'écoute mes sons. Des fois, il y en a, ils disent que le rythme, il est bon, mais ils comprennent pas les paroles. Donc, moi, tant que le rythme, ça leur va et que moi, j'écoute très bien ma musique, moi, je le mets.
Je suppose que ça écoute plus de rap américain, quoi.
Ouais, ils sont plus aussi dans les sons espagnols aussi.
Ok.
Mais voilà, moi, quand j'en ai trop marre de leurs petits sons, là, moi je commence à mettre mes petits sons. Rap français.
Et moi, j'ai vu autre chose, c'est qu'avant le foot, t'aurais fait du breakdance.
C'est ça. Je devais choisir entre le breakdance et le football. Le breakdance, je me débrouillais bien, je pouvais aller loin. Mais voilà, je sais que ma mère, elle avait peur que je me casse quelque chose en faisant des saltos ou l'équilibre ou des choses comme ça. Donc du coup, voilà, comme j'étais doué dans ces deux sports-là, j'ai continué dans le foot.
Et tu faisais ça au Mans?
C'est ça, je faisais ça au Mans. Le groupe, je crois, il s'appelait Légitime Obstruction. C'était vraiment dans les débuts, okay. Ils étaient vraiment, vraiment trop forts et moi, je voulais faire ça. Et au final, ouais, j'ai choisi la voie du foot.
Kalash Krimi, tu es un peu sans doute le rappeur qui fait le plus de comparaisons avec le foot du rap français.
Ouais, c'est ça.
Sur ton dernier album, il y en a quand même un paquet encore.
Ouais.
Et en plus, elles sont pointues. Pourquoi autant de refs en dehors du fait que t'aimes le foot? C'est des images fortes, les comparaisons avec le foot?
Bah, c'est des images fortes et en fait, moi, j'ai écrit et je retranscris ce qui m'inspire. Et je regarde énormément le foot et le foot, ça fait partie de ma vie. Donc forcément, quand je rappe, je relate un peu ce qui se passe dans ma vie. Et forcément, il y a toujours du foot. Donc ouais, ça fait partie de ma vie et il y a des moments forts, il y a des joueurs que j'aime bien. Donc, dès que ça rime, ben, j'essaie de les placer.
Surtout, tu ne fais pas des références évidentes, quoi. Des fois, tu cites des petits joueurs qui ont joué à Glasgow.
C'est vrai.
Ou des joueurs africains aussi, beaucoup.
Beaucoup, ouais, beaucoup de joueurs africains. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ces joueurs-là. Du coup, j'essaie de les mettre en lumière parce que c'était des très bons joueurs. Ben, comme Henri Camara, par exemple, dans le dernier album. Et voilà, ouais, je m'inspire beaucoup du foot, ouais.
Et ouais, dans ces punchlines aussi, t'as envie de mettre de la lumière sur des joueurs moins connus?
Ouais, bien sûr, j'ai envie de mettre de la lumière sur des joueurs moins connus, j'ai envie de mettre de la lumière aussi sur des joueurs que j'aime bien ou des proches à moi, ça m'arrive, ouais. Je vais beaucoup au stade, des fois je relate aussi ce que je vois au stade.
Alors, en parlant d'aller au stade, je crois que ton ami Ibrahima Konaté,
c'est ça.
T'as fait un sacré cadeau pour la fin de saison. Tu peux nous en dire plus?
Bah ouais, ben je compte y aller pour ma première Anfield, pour la dernière de Klopp.
Incroyable.
Ça fait un moment que j'ai envie d'aller en Anfield, mais j'avais pas forcément le temps. Et là, je me suis décidé. Ça y est, c'était le moment. Je pouvais pas laisser passer ça. Avec
donc,
tout
tu vas assister à Liverpool-Wolverhampton.
C'est exactement ça,
mai,
le 19 mai, ouais.
Qui sera le dernier match absolument mythique de Klopp.
C'est exactement ça.
C'est pas mal.
Non, franchement, c'est incroyable. En loge, ouais. Franchement, c'est incroyable. J'ai hâte.
Oui, parce que t'es supporter de Liverpool.
C'est ça.
Depuis longtemps.
Depuis 2002, ouais.
Ah ouais, 2002.
C'est ça. Moi, je suis arrivé en France en 2001. Et après, mon oncle, il est venu en France après nous et il habitait avec nous. Et il regardait beaucoup Liverpool. Il était fan de Liverpool et du FC Barcelone.
Ok.
Et du coup, ben, moi, je regardais souvent les matchs avec lui et je suis devenu supporter de ces équipes-là aussi.
Et vous parlez de foot avec Denis par message un peu?
Bah ouais, j'ai une anecdote parce qu'à la base, moi, je me suis lancé dans le foot et tout ça. Et j'avais un club pour Denis, et dès que je l'envoie le message, je vois qu'il a posté qu'il a signé à Los Angeles. Je sais pas s'il s'en rappelle. Et j'ai dit, ah ouais, lourd. Mais et j'étais content pour lui.
On peut dire ce que c'était le club que tu avais en tête pour lui ?
Non, il y avait deux clubs. Il y avait Rennes et il y avait Young Boys de Berne.
Ouais. Et donc, on en parlera plus tard, mais comme tu développes une profession d'agent de joueur, tu te proposais d'être intermédiaire sur ce deal, quoi.
C'est ça. Okay. Et j'ai vu, je crois, 2-3 minutes après, il a signé à Los Angeles. Après, il m'a répondu, ouais, j'ai déjà signé, tout ça et tout. Parce que c'était un joueur énormément demandé pendant cette période de transfert. Et voilà, je suis super content de ce qu'il fait à Los Angeles. C'est incroyable, meilleur buteur, tout ça. J'ai suivi de A à Z et c'est lourd de fou.
Ouais, Denis, tu regrettes pas ton choix, non ?
Non, je regrette pas du tout. Moi, j'aurais préféré quand même rester en Europe auprès de ma famille, mais voilà. J'ai fait le choix de partir, le choix de briller ailleurs, et au final, je regrette pas du tout, vraiment pas du tout.
Bah, ça tombe bien, on va un peu plus en parler dans notre deuxième partie avec d'abord un extrait de Kalash Krivyak.
J'ai de l'amour pour faire l'amour, mais pas assez pour une histoire d'amour. Mon cœur ferme à double tour. Désolé, on va couper court. Je voulais me confier à une femme, et d'un coup, j'ai pensé à Sanson. Faut que je fasse du fric. Plus que appeler Samsung, ils disent tous que je suis chanceux. Parce que j'écris des chansons, ils penseront plus pareil quand Dieu viendra me juger. Quand Dieu viendra me juger.
On vient donc d'écouter le morceau Kiss and Fly, extrait de ton dernier album. Et on l'a choisi parce que on voulait parler du fait que vous réinventez les deux. Et c'est un son que j'ai trouvé assez étonnant sur ton album. C'est pas du tout à la base des sonorités de Kalash Criminel.
C'est vrai.
Est-ce que toi, t'es là depuis bientôt... Ça va bientôt faire 10 ans quand même.
C'est ça.
Est-ce que tu réfléchis à, dans ta musique, je voulais te demander vraiment à te réinventer, pas toujours faire la même chose, même si t'as un son identifiable.
Bien sûr. Après, je pense que si tu ne réinventes pas, ben, dans la durée, c'est compliqué de durer. Et je pense qu'il faut toujours être au point, on va dire, écouter les sonorités qui se fait et faire à ta sauce un peu, parce que le but, ce n'est pas de copier aussi ce qui marche ou le rappeur d'à côté. Le but, c'est de prendre un peu ce qui marche et de faire à ta sauce et que ça donne la bonne musique. Et moi, j'essaie toujours de me réinventer parce que ça fait quand même bientôt 10 ans. Et ça faisait 3 ans que je n'avais pas sorti d'album solo. Donc, il fallait quand même ramener de la nouveauté. Et ça, c'est super important.
Et c'est dur de remettre un peu, justement, de se challenger pour faire des nouvelles choses et pas rester dans ce qu'on sait faire ?
Bah, au début, c'était dur. Ouais. Parce qu'en termes d'expérience, bah, c'est nouveau. Et quand t'es nouveau un peu, t'as pas forcément l'expérience. Et t'as pas, on va dire, t'as pas forcément les punchs aussi. Mm. Mais au fur et à mesure, bah, moi, au début aussi, c'était dur parce que j'allais pas tout le temps au studio.
Ouais.
Et maintenant, j'y vais quasiment 3-4 fois par semaine. Du coup, ben, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. C'est comme un peu tout. Quand tu t'entraînes énormément à tirer ou à faire des passes, au fur et à force d'en faire, ben, tu deviens meilleur. Et moi, le studio, c'est ça. J'ai énormément travaillé sur ça depuis 4 ans, 5 ans. Je vais régulièrement au studio. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile à faire ce genre de morceaux.
Denis, parce que là, il parlait presque comme un footballeur. est-ce que toi aussi, dans ta carrière, t'as dû faire évoluer ton jeu ? T'as dû aussi changer des choses pour avancer ?
Ouais, c'est ça. Quand en étant petit, je crois, à Lorient, on me disait que voilà, j'avais la capacité de bien dribbler et de bien jouer dans la profondeur. Donc, comme j'allais vite, c'était un atout pour moi. Mais on m'a demandé d'évoluer mon jeu et d'essayer de rentrer plus à l'intérieur et de combiner avec les autres à l'intérieur. Donc j'avais du mal à le faire, puisque mon atout numéro un, c'était d'aller dans la profondeur, vu que j'allais un peu plus vite. Et donc du coup, j'ai dû évoluer mon jeu. Donc j'ai dû arrêter d'aller dans la profondeur et aller dans les espaces au milieu. Mais voilà, en changeant de club, bah justement, on me disait, ouais, mais maintenant, il faut que tu ailles dans la profondeur. Donc du coup, il fallait encore évoluer, il fallait encore changer. Et bah voilà, après, plus les années passent, bah plus tu expérimentes du jeu, donc maintenant je sais faire les deux, je sais y aller quand faut y aller, je sais rentrer à l'intérieur quand faut rentrer à l'intérieur. Après voilà, avec l'expérience, c'est un peu plus facile.
Tu parlais de changer ton jeu, mais là t'as carrément changé de vie parce que t'as fait presque le transfert le plus incroyable, improbable qui soit, de passer de Saint-Étienne à Los Angeles. C'est un peu comme passer de Sochaux à Barcelone, quoi. C'est deux univers complètement différents. Ouais. Tu peux nous raconter ce que t'as ressenti quand t'as reçu l'offre de LA, j'ai envie de dire. Comment t'as reçu ça?
Alors, la première offre que j'ai reçue, je me suis dit, non, pour moi, c'était pas vrai. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce que moi, pour moi, de base, la première option, c'était de rester en Europe, c'était pas d'aller à Los Angeles. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est flatteur quand même à Los Angeles et tout. Je suis parti voir leur équipe quand même. J'ai dit, ah oui, quand même. Giorgio, Gareth Bale, Vela, je me suis dit, ah, quand même des stars. Et donc du coup, bon, je me suis dit, ouais, bah c'est flatteur. Et au final, moi, j'attendais un club en Europe. Et au final, Los Angeles m'appelait tous les 2-3 jours pour savoir quel était mon point de vue. Donc après, j'ai vu vraiment que ce club-là, il me voulait vraiment. Et voilà, ils ont fait part de leur offre. Et donc moi, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, bah allez, je vais y tenter. Et puis il y a une bonne équipe. Puis ils sont encore en liste pour gagner la coupe. 6 mois après, j'arrive, je gagne la coupe. Donc ouais, je regrette pas du tout. Et au final, j'ai changé de vie, même changé de continent carrément.
Tu parlais de Gareth Bale, qui est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Et tu peux nous en dire un peu. Donc t'as partagé ta première saison là-bas. Est-ce que il avait encore un niveau assez élevé ? Est-ce qu'il en gardait sous la semelle ? C'était comment de jouer avec lui à l'entraînement ?
Il en gardait sous la semaine, parce qu'à l'entraînement, des fois, quand il voulait, bah voilà, il faisait ce qu'il voulait. Mais ouais, moi, je m'entendais plus avec Gareth Bale au moment des matchs, au moment de l'échauffement. On se faisait des passes tous les deux. C'est là où je commençais à apprendre l'anglais, à comprendre un peu plus. Et donc, du coup, voilà, il me donnait des conseils, des fois, quand c'était les pauses fraîcheurs, parce qu'à ce moment-là, il faisait grave, grave chaud. Et puis, l'anecdote que j'ai, c'est quand on est parti tirer des coups francs à l'entraînement. C'est là où tu vois que, ah ouais, là, c'est vraiment un autre niveau. C'est une technique de frappe que toi, tu n'as pas, que tu vois pas ça souvent.
C'est-à-dire qu'il marquait tous ses coups francs à l'entraînement ?
Ouais, déjà, ça passait le mur. Donc, s'il ne marquait pas, c'était qu'il avait mal frappé et qu'il le disait bien avant dans sa course. Et bah oui, bah après, voilà, maintenant, chaque jour, tous les 2 jours à l'entraînement, j'essaye d'appliquer cette technique de frappe. Donc,
ah ouais ? Donc, tu t'as pris modèle sur lui, alors ?
Ouais, sur quelques frappes, ouais. Il y a des fois où t'as pas le temps de réfléchir et que t'essayes de frapper coup du pied, et voilà. Mais des fois, j'essaye de frapper flottante comme lui, il le faisait. Et c'est vrai que des fois, ça marche beaucoup.
Et juste pour terminer, t'es resté en contact un peu avec lui ou pas ?
Non. Je pense qu'il est assez occupé.
Il est assez sollicité comme ça.
À faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, donc moi, je suis pas du genre...
Et vous êtes même pas allé jouer au golf ensemble ?
Non, alors pourtant, on le faisait beaucoup. Je sais que la première année, quand je suis arrivé, voilà, il parlait déjà de ça, il recevait des balles et tout, donc, donc non.
Quel âge crémit, toi, si t'étais agent, est-ce que t'aurais dit à Denis de partir à Los Angeles ? C'est audacieux comme choix, quand même.
Ouais, franchement, même moi, j'étais surpris parce que moi, je connais le niveau de Denis, même quand il quitte Saint-Etienne, il avait quand même fait une belle saison. Et moi, pour moi, c'était sûr qu'il allait trouver un club en Europe. Après, c'est un choix totalement assumé.
Ouais.
Tu vois, il s'est pas caché ou quoi. Il a totalement assumé d'aller à Los Angeles. Et surtout, il s'est bien acclimaté parce qu'il a quand même fini meilleur buteur. Il a gagné des coupes. Et ça, c'est fort parce que souvent, quand tu changes de continent, tu essaies de revenir le plus rapidement possible en Europe. Et lui, je crois, ça fait déjà un moment qu'il est là-bas. Donc, il est bien. Tant qu'il est bien, c'est l'essentiel. Mais moi, j'écoute d'abord l'envie du joueur.
Ok.
C'est le plus important parce que... Après, tu essaies de le conseiller, mais tu écoutes d'abord. Et je pense que quand même, c'est important parce que si, on va dire, tu le conseilles et il fait quand même le choix du cœur, on va dire, et si ça échoue, ben, il va quand même dire « Ah, il m'avait conseillé, il m'avait dit. » Alors que si tu le forces et ça ne marche pas, ben, la faute, elle revient totalement à l'agent. Donc, je pense qu'il faut prendre les tenants et aboutissants des deux côtés pour faire le meilleur choix.
Juste peut-être avant qu'on parle de ton activité d'agent, une dernière petite question, Denis, sur Lloris qui vient d'arriver. On parlait de s'acclimater. Tu l'aides un peu à prendre ses marques, là ? Comment ça se passe ?
Ouais. Je l'ai aidé en arrivant ici. Tout change ici. Vraiment, vraiment, tout change. Il a vraiment pas l'habitude de ça, mais c'est ce qu'il recherchait. Donc maintenant, il kiffe de ouf, que ça soit de jouer sous 30, 36 degrés. Là, il va avoir chaud, déjà. Il y a 2 jours, on a joué sous je sais plus combien de degrés, je crois, 23, 24. Et le soleil plein sans vent, c'était incroyable. Il avait déjà chaud alors que lui, c'était un gardien. Donc, après, on s'acclimate beaucoup. Il aura beaucoup de choses à faire ici parce qu'à Los Angeles, tous les jours, tu es obligé de faire quelque chose.
Mais tu dis tout change. Qu'est-ce qui change par rapport au foot européen ? C'est quoi ? Je sais pas, c'est les trajets en voiture, c'est les entraînements, les horaires.
Ouais.
Qu'est-ce qui change en fait ?
Ouais. Déjà, il était en jet lag à ce moment-là. Donc, il dormait, il se levait à 3h, il était obligé, il pouvait pas redormir. Donc, il attendait jusqu'à 9h pour arriver à l'entraînement. Et même les bouchons, la circulation, parce qu'on se plaint de Paris, mais ici à Los Angeles, c'est 6 voies. Les 6 voies, ils sont bouchés, arrêtés sur l'autoroute. C'est... Wow.
Donc tu dois anticiper tous tes déplacements, quoi.
Dès que tu te lèves, t'es obligé de mettre Waze, quoi qu'il arrive. T'es obligé de mettre Waze. Et c'est minimum 30 minutes. 30 minutes, t'es au top. t'es au max 30 minutes.
C'est-à-dire, c'est le plus petit déplacement que tu fasses, c'est minimum 30 minutes.
Minimum 30 minutes. Ça, c'est quand je vais emmener mon fils, par exemple, ce matin, j'ai mis 26 minutes.
Et Denis, Kalash Krimi parlait du fait aussi, quand on change de continent, il faut un temps d'adaptation. Toi, t'as senti que sportivement, en arrivant aux États-Unis, comme Kalash Krimi dit, il fallait un peu de temps pour après être bon sur le terrain?
En fait, non, sur le terrain, ça va. Sur le terrain, une fois que tu prends tes repères, les terrains, c'est tous les mêmes. Moi, pour moi, c'est juste... après, voilà, quand tu vas commencer à jouer, les gens remarqueront directement que si t'es un bon footballeur, avec quoi tu peux apporter aussi sur le terrain. Donc ça va venir tout seul. C'est plus en dehors du terrain. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'avais des problèmes avec la maison. Ouais. Parce que des fois, ici, ils veulent que tu payes 6 mois à l'avance. Donc moi, vu que j'avais pas encore mon compte en banque ici, donc du coup, j'ai dû envoyer de France et ça mettait une semaine. J'étais encore à l'hôtel à ce moment-là avec les enfants dans une double chambre. Les affaires qui arrivaient en même temps, ouais, c'était compliqué en fait. Et du coup, mais fallait que je fasse la part des choses en fait. Une fois sur le terrain, je reste concentré sur le terrain, mes performances et tout. Et ensuite, dès que le match est terminé, allez, revenons au problème. Faut que je règle ça, faut que je règle ci. La voiture, fallait un crédit score ici. Donc, je savais pas ce que c'était. Il y a trop de problèmes ici. Ici, tu vis avec deux cartes bancaires. Tu vis avec la débit, tu vis avec la crédit. Enfin voilà, fallait que je m'adapte à beaucoup de choses. Mais une fois sur le terrain, faut que tu fasses la part des choses, en fait. Sinon, tu t'en sors pas du tout.
Ouais, t'as moins de changements quand tu changes de club dans le même pays, de Nîmes à Saint-Etienne, etc.
Oh, t'as rien du tout. C'est juste, tu mets tout dans la voiture, t'appelles tes potes pour le déménagement et terminé.
D'accord.
Après, tu changes juste de maillot et d'emplacement. Alors qu'ici, tu changes beaucoup, tu changes trop de trucs, il y a trop.
On revient à ton activité dont tu as déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, celle d'agent. Tu peux nous en dire plus? C'est vraiment une reconversion? C'est une nouvelle vie? C'est un projet parallèle à ton projet de rappeur? Pourquoi tu veux devenir agent?
Parce que déjà, à la base, moi, je suis passionné de football. Donc là, faire une carrière dans le foot, c'est mort.
On ne sait pas.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon cousin qui cherchait un club. Et j'ai réussi.
C'est qui ton cousin?
Il s'appelle Jonathan Okita, qui jouait à Nègue. En première division aux Pays-Bas. C'était, on va dire, le meilleur joueur de l'équipe et il était en fin de contrat, il cherchait un club et ses agents, ils n'avaient pas trouvé de club. Du coup, comme il savait que j'avais pas mal de contacts dans le football, il m'a demandé de l'aide. Et par mes contacts, on a trouvé le FC Zurich en Suisse, qui était champion de Suisse d'ailleurs, qui jouait la Ligue des Champions, tout ça. Du coup, il a signé là-bas et après, Franck Ribéry m'a écrit parce que je parle souvent avec lui et il m'a dit, on se fréquente souvent, on s'appelle souvent. Il m'a dit, toi, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es bon en management, tu connais très bien le football, ça serait bien que tu te lances dans le métier d'agent. Et par la suite, j'ai réfléchi et j'ai commencé à prendre des cours. Et après, la tournée est arrivée, l'album, du coup, j'ai mis en stand-by. Et par la suite, je me suis renseigné, j'ai rencontré plein d'agents avec qui j'ai discuté. Et ensuite, par la suite, j'ai monté ma société qui s'appelle Power Industry, où il y a des agents qui me représentent pour l'instant parce que j'ai pas envie d'exercer le métier sans le diplôme. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Du coup, j'ai monté.
Tu vas passer le diplôme, concrètement?
Exactement, ouais. Après l'album et la tournée, je vais passer le diplôme.
L'an prochain, du coup?
L'an prochain, ouais.
Et c'est quoi? T'auras arrêté ta carrière de rappeur ou tu veux mener les deux de front? Comment ça se passe?
Je pense que l'année prochaine, je vais faire une année sabbatique juste pour me concentrer sur ça. Parce que cette année, je compte sortir, on va dire, 2-3 projets.
Ok.
Et après 2025, me concentrer sur ça et revenir, on va dire, en 2026 avec un nouveau projet dans le rap.
Et tu sais qu'il y a plusieurs rappeurs qui se sont risqués à l'exercice. Moi, je me souviens que j'avais interrogé Booba sur le sujet, par exemple, et je crois qu'il en est revenu. T'as pas peur? Parce qu'il y a eu plusieurs échecs dans le domaine.
En plus, le taux d'échec est vraiment élevé. Et on va dire, c'est compliqué, mais moi, après, j'ai pas de limite. Et je vais me donner les moyens pour
y arriver. Tu vas faire mieux que Booba, quoi.
J'espère, en tout cas.
Denis, tu trouves ça cool que Kalash Krimi se lance là-dedans?
Ouais, déjà, ça fait une partition en plus. Moi, je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Il a rien à perdre, en fait. Il a presque tout à gagner là-dedans. Il aime bien le foot, il connaît le foot. Et surtout, les joueurs français, puis maintenant les joueurs internationaux, ils écoutent beaucoup les sons. Donc, ils vont vouloir écouter, se renseigner, voir si par exemple, ce joueur-là, il est passé par Kalash criminel, est-ce qu'il a réussi à aller signer dans un club. En fait, déjà, dès le départ... Le cousin, déjà, Kita, donc s'il en parle autour de lui, ça va agiter les gens et ça va faire du bouche à oreille. En fait, ça peut grossir comme ça peut tout basculer au final.
C'est ça.
Donc, il a rien à perdre.
Oui, parce qu'il faut dire que ton cousin, Kalash Krimi, est deuxième meilleur buteur du championnat suisse, c'est ça?
C'est ça, c'est exactement ça. Ben, lui, on avait signé il y a 2 ans maintenant. La première année, il jouait pas beaucoup parce qu'il y a eu énormément... Ben, les clubs, ils étaient champions. Et après, ils ont changé d'entraîneur, changé d'équipe et ça s'est pas trop bien passé. Il a pas beaucoup joué. Et moi, je me rappelle, en hiver, il voulait changer de club. Et moi, je lui ai dit non, reste, faut que tu restes et tout. On vient d'arriver, on peut pas partir comme ça. T'as encore tout à prouver. Il voulait absolument partir et je lui ai donné des arguments pour rester. Il est resté. Cette année, il est deuxième meilleur buteur. Ouais.
Et donc, vous avez parlé quand même au moment de partir de Saint-Etienne.
Ouais. Je l'avais envoyé un message, ouais.
Mais tu voulais l'avoir dans ton agence ?
Non, du tout, parce qu'en fait, j'avais des clubs qui cherchaient le profil de Denis, dont Young Boys de Berne, qui avait déjà fait une offre et tout ça. Et moi, j'ai juste... comme il savait que je connaissais Denis, et je lui ai fait passer l'info, mais il avait déjà signé.
Et à ce sujet, Denis, la suite, c'est quoi pour toi ? Parce qu'on sait qu'en janvier, il y avait, je crois, Rennes et Lens, notamment, qui étaient sur toi. Toi, tu envisages rester toute l'année ? Est-ce que tu pourrais partir cet été ou l'hiver prochain ? C'est quoi la suite pour toi ? Comment tu l'envisages ?
En fait, moi, j'aimerais bien revenir en Europe, comme je l'ai dit, auprès de ma famille. Voilà, moi, elle me manque beaucoup, même si je m'adapte très bien aux États-Unis. Pour moi, c'est parfait. Et en janvier, en fait, tout dépendait pas de moi. Moi, j'avais cette envie-là, mais... En janvier, c'est difficile de bouger un joueur, de l'acheter autant de millions. Parce que voilà, je sais que Los Angeles, ils étaient gourmands sur ça. Le marché d'été, je pense qu'il sera plus facile que le marché janvier. Mais donc voilà, après, tout reste à voir. Tout dépend des besoins des équipes. Tout dépend des joueurs qui partent. Parce que maintenant, dans chaque club, il faut qu'un joueur parte pour en recruter un autre, vu qu'il n'y a pas de droit télé pour l'instant. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et voilà... Peut-être cet été, je partirai pas. En fait, tout dépend.
Tu préférerais la Ligue 1, toi, ou un autre championnat européen ?
Une fois que j'ai connu maintenant les États-Unis, que j'ai connu l'étranger, moi, ça me dérangerait pas de reconnaître un autre championnat. Voilà, moi, j'aime le foot. Quoi qu'il arrive, partout où j'irai, je continuerai à me donner à 100%. Donc, quoi qu'il arrive, que ça soit la Ligue 1, ça serait le meilleur. Parce que voilà, il y a ma famille, il y a mes parents qui me manquent beaucoup. Et puis si c'est en Europe à côté dans les 5 ou 6 championnats majeurs, bah c'est pas grave, c'est des heures de vol plus proches que celles des États-Unis.
Mais t'es pas contre un déménagement à nouveau cet été, quoi?
Non, je suis pas contre, vraiment pas contre.
Et bien on va passer à notre dernière partie avant de se quitter.
Tout niqué, dans la vie j'ai intérêt. C'était soit le rap, l'illicite ou l'intérim. Je décolle de Kin et en France j'atterris. C'est dans une chambre, j'avoue c'est pas terrible.
On vient de s'écouter un extrait de ton premier album, un super morceau qui s'appelait Coltan.
C'est ça.
On voulait passer ce morceau parce que tu parles beaucoup de sujets politiques, notamment en lien avec l'Afrique dans ta musique. On voulait parler aussi de votre lien, les deux, avec l'Afrique. C'est assez important. Première question pour toi, Kalash Criminel. C'est important pour toi dans ta musique de parler de l'Afrique, même sur ta pochette. Il y a le continent africain aussi sur la pochette de ton dernier album, etc.
Ouais, bah parce que déjà, je viens de là-bas, je suis né au Congo. J'ai énormément de proches là-bas, il y a énormément de choses qui se passent là-bas, je regarde tout ce qui se passe, donc forcément ça m'inspire et quand ça me tient à cœur, j'essaie de, comme je l'ai dit, de relater et de mettre dans ma musique. Et l'Afrique, c'est chez moi. Et moi d'ailleurs, j'ai failli arrêter le rap à un moment, mais je suis allé en Côte d'Ivoire, ils m'ont tellement bien accueilli que c'est grâce à ça que j'ai repris le rap en 2019, si je me trompe pas, ouais, en décembre 2019. Donc ouais, c'est un continent qui compte énormément pour moi, oui.
Denis, ça te parle un peu les punchs, les phrases de la musique de Kalash Krimi sur l'Afrique ?
Ah oui. Pour moi, elles sont touchantes, elles sont valorisantes pour l'Afrique. Donc du coup, c'est ce qui fait la force aussi à Kalash, c'est que il emmène tellement de gens, de personnes africaines dans ses sons, qui fait que c'est reconnu partout en fait. Et donc du coup c'est ce qui est bien. En tout cas moi c'est ce qui me plaît de ouf, c'est quand il sait kicker quand il faut kicker et il sait relativiser quand il se passe des choses par exemple au Congo.
Ouais.
Il sait faire. Donc moi c'est ce qui me fait kiffer de ouf et puis pas qu'à moi aussi parce que Je sais que mon fils aussi m'a déjà demandé ouais, j'aimerais bien voir sous la cagoule de Kalash commencer.
Et avant de se quitter, vous avez un point commun, Denis et Kalash Criminel, c'est que vous dites ce que vous pensez. Et Pierre-Etienne voulait faire une chronique là-dessus, notamment pour parler de la liberté de ton de Denis.
Oui, parce que quand on parle de Denis Bouanga en tant que joueur, on souligne généralement la diversité de ses dribbles, sa facilité à éliminer un adversaire en prenant de vitesse. Moi, j'ai envie de mettre en avant donc une autre qualité qui ne concerne pas le terrain, mais c'est son franc-parler. Car c'est assez rare qu'un footballeur s'exprime aussi librement que Denis.
Pourquoi sans toi ?
Parce que, en fait, le football, c'est un univers particulier dans lequel le moindre mot de travers déclenche souvent une polémique sans intérêt, ce qui incite souvent les joueurs, et plus encore leur entourage, à la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de prendre la parole. Ce n'est donc pas le cas de Denis, qui, par exemple, en 2019, a critiqué ouvertement le comportement de Kylian Mbappé sur RMC en 2019. Donc, on écoute.
Puis voilà, il reproduit les gestes de son coéquipier Neymar aussi.
Ah, ça, c'est
ça, je pense, qui énerve aussi... Beaucoup de joueurs. Le fait d'être pas soi-même, ça énerve beaucoup de joueurs.
C'est rare, non, un joueur qui ose critiquer Mbappé.
Oui, parce qu'évidemment, Mbappé, c'est un joueur immense, je l'apprends à personne, mais très peu de footballeurs se sont risqués à égratigner l'icône de peur d'apparaître comme des aigris. Denis, lui, dit ce qu'il pense et ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et c'est tout à son honneur, je trouve.
Est-ce qu'il y a d'autres domaines où Denis dit ce qu'il pense ?
Oui, par exemple, il n'a pas caché qu'il serait donc plutôt favorable à un retour en Europe, on l'a dit, ce qui, j'imagine, ne fait pas forcément sauter de joie les propriétaires du Los Angeles FC. Et puis l'an dernier, il n'avait pas hésité à critiquer le football pratiqué par les Léopards de la République démocratique du Congo, ton équipe, Kalash.
Merci, Denis.
Après une défaite face au Gabon, il avait lâché. L'adversaire n'a pas proposé grand-chose sur le plan du jeu, ce qui, à l'échelle du foot, constitue presque une attaque au lance-flammes.
Et est-ce que cette liberté de ton, c'est aussi sur les réseaux sociaux ?
Ah oui, alors que de nombreux joueurs cherchent constamment à gagner des likes et des followers à travers leur communication sur le réseau, Denis, lui, n'a pas hésité en 2022 à s'en prendre aux internautes qu'il avait tancés pour avoir assisté à un match au Vélodrome alors qu'il évoluait à Saint-Té, et ce, 2 semaines avant un match opposant les Stéphanois et les Marseillais. Il avait déclaré sur Twitter « Je ne vais sûrement pas m'excuser d'avoir un ami, Matteo Guendouzi, évoluant à Marseille, qui m'a laissé des places pour venir le voir jouer. Gentiment, on me demande de faire des photos, j'accepte. Laissez vivre et cessez de juger la vie des gens. » Voilà, donc merci. Je voulais juste te remercier de lutter à ton échelle contre la langue de bois généralisée. Et bon, néanmoins, j'ai une petite question. Est-ce que cette franchise s'est parfois retournée contre toi dans l'univers du foot ? Est-ce qu'on te l'a parfois reproché ? Je sais pas, que ce soit un dirigeant, un entraîneur.
On me l'a reproché à Lorient.
Ouais.
À Lorient, quand je suis revenu du prêt de Tours, j'ai commencé en Ligue 2. Donc, du coup. Je tweetais sur Marseille. Donc, j'ai toujours tweeté sur Marseille. J'aime Marseille à mort, tout le monde le sait. Donc, je tweetais sur Marseille quand ça allait bien. Donc, quand ça allait bien, tout le monde faisait pas attention. Je marquais des buts, je faisais des passes. Et du jour au lendemain, voilà, le coach décide de plus me faire jouer parce qu'il savait que j'allais partir. Enfin, il y avait beaucoup de problèmes. Mais je tweetais encore sur Marseille au moment où Marseille arrive. Ils sont arrivés en finale de l'Europa League contre
l'Atlético,
je crois. C'est ça? Et donc, j'ai toujours tweeté. Et au final, comme je jouais pas, Lorient, ça allait mal. Et moi, j'ai toujours tweeté sur Marseille. Et au final, bon, voilà, ils sont arrivés en finale. Donc, je mettais des cœurs blancs, des cœurs bleus. Et au final, les supporters de Lorient s'en ont pris à moi. Ils ont sorti une banderole, carrément une banderole dans le stade où ils ont mis Denis, arrête de taper dans ton clavier et mets tes crampons. Donc, du coup, moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait rire. Donc, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, au tout début, quand ça allait bien et quand je marquais des buts, personne ne disait rien, personne calculait ce que je faisais. Et c'est quand tu joues pas que les gens te tombent dessus. Donc du coup, moi, voilà, j'ai toujours parlé de Marseille comme ça. Voilà, je suis un fan, encore plus quand Pierre il a signé là-bas. Donc, moi je fais attention parce que je suis footballeur. Je fais attention à ce que j'écris, à ce que je dis. Mais il y a des fois quand la passion elle prend le dessus, je peux pas. Je peux pas, tout simplement.
Et juste sur Mbappé, t'avais pas eu des retours, toi ? On t'a pas reproché, je sais pas.
Non. En fait, moi, j'ai dit ce que je pensais par rapport à Monaco et par rapport à Paris, en fait. Le changement de joueur.
Oui, bien sûr.
Que son idole, c'était Neymar. Donc, obligatoirement, il va reproduire ce que fait les gestes de son idole. Mais ça a changé son jeu. À Monaco, il était plus instinctif, il était plus droit, il était maintenant moins tueur parce que maintenant Kylian Mbappé, c'est autre chose. Mais ouais, il changeait son jeu. En fait, bah, moi, je l'ai remarqué comme ça. Donc, moi, je l'ai dit sans me moquer, sans lui mettre un pic, sans rien. Bien parce sûr, que je sais très bien que maintenant.
Mais on te l'avait pas, je sais pas, sur les réseaux sociaux, t'avais pas pris la marée après ça parce que personne ne touche à Mbappé.
Moi, si, ouais, j'ai pris une petite marée. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, joueur. Enfin, alors que moi, c'était juste une comparaison, en fait, bien entre sûr. Monaco et Paris. Voilà, maintenant, là, il fait moins de gestes.
Moins de gris-gris.
Moins de gestes. Moins de gris-gris et il va plus direct au but. Et donc, c'est ce qui marche le mieux.
Et dans votre, dans la musique ou dans le foot, c'est important pour vous deux de dire ce que vous pensez?
Ouais, bah pour moi, c'est primordial. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis parti en indépendant parce que souvent, quand tu es en maison de disques, ils te censurent un peu, ils te disent un peu ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai créé mon label direct, comme ça, je suis libre et dès que je pense quelque chose, je le dis, sans blesser ou sans offenser quiconque, mais essayer de dire la vérité et de donner mon avis sur ce que je pense.
Pareil pour toi, Denis ?
Ouais, moi, c'est la même chose. Moi, on me dit, fais attention à ce que tu dis. Des fois, on me dit... là, par exemple, il y a un joueur qui manque cruellement à Los Angeles, c'est Carlos Vela.
Ouais.
Ils me disent qu'à chaque fois que je vais en conférence de presse, si on te pose la question, il faut que tu essayes de botter en touche. Bah, non, en fait. Tu vois, moi, c'est mon ami. Je veux qu'il soit là, puisqu'avec lui, je suis bon, je m'entends très bien sur le terrain. Donc en fait, j'essaye d'aider moi et mon équipe et pas de le tuer parce que voilà, l'institution ne le veut pas ou essaye de se procurer autre chose ou enfin d'aller à droite à gauche. Donc moi je dis ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour mon équipe et mon entourage. Donc voilà, après ça plaît ou ça plaît pas, pour moi c'est la même chose.
Bah écoutez, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci à vous encore. Merci Kalash Criminel d'avoir été là.
Merci à vous, merci Denis.
Merci Kalash.
Merci à toi Denis aussi de nous avoir donné cette interview malgré le décalage horaire.
Non, ça va, moi, pour moi c'est le matin donc moi j'ai toute l'après-midi là.
Merci aussi à Pierre-Etienne, journaliste à l'équipe avec qui on a travaillé à la préparation de cet épisode. Cet épisode a été enregistré et monté par Adèle Itel El Madani. On se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous bien et à très vite.